Bonjour tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'action communautaire autonome. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre périple là nos doigts en rencontrant des artisanes et des artisans communautaires autonomes. Et puis, je veux en profiter pour vous dire que cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir des très beaux commentaires sur l'émission. Puis, je tiens vraiment à remercier chaleureusement et sincèrement chaque personne qui a pris le temps de m'écrire ou de me partager leur appréciation. Je suis vraiment contente de savoir qu'on fait découvrir les réalités des organismes communautaires autonomes. Puis vraiment, là, d'avoir votre rétroaction sur l'émission, ça me fait super plaisir. Cette semaine, la grosse question que vous pouvez aller répondre sur la page facebook.com/troquel, c'est comment protéger la démocratie ici au Québec. C'est une grosse question, mais en même temps, elle est collée sur l'actualité, tout ce qu'on se vit ici au Québec. Et d'ailleurs, je vais en parler tantôt avec Canel du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. On a eu une grande discussion là sur le projet de loi 1 et loi 7 qui impacte autant les citoyennes et les citoyens que les organismes communautaires autonomes. Je vous rappelle que pendant l'émission, vous êtes invités à discuter avec moi sur le Messenger de la Troquel ou par courriel à radio@troquel.org. Et là, ce soir, j'ai la chance de vivre l'émission avec Stéphanie, directrice de Regroupel, qui vient passer la journée avec moi. Et Regroupel, c'est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Allô, Stéphanie?
Bonjour, Benoît.
Non, moi, c'est Hugo.
Hugo, je pense que ça commence bien. Bonjour,
c'est,
Hugo.
C'est vraiment juste très drôle. Stéphanie, on part l'émission. Tu vas passer vraiment toute l'heure avec nous. Et je te disais, avant qu'on rentre en onde, j'aime beaucoup prendre le temps de parler des parcours des artisanes communautaires autonomes qui viennent me rencontrer. Mais toi, ça part d'où d'être dans le mouvement communautaire?
Mais comme tu sais, Hugo, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, moi, à la base, toute jeune, je fais mes études en droit. Donc, j'ai un bac en droit, je commence à pratiquer comme avocate, je fais du droit familial et je suis approchée par le Centre Femmes des Moulins, par la coordonnatrice qui est là à l'époque, Rita. Donc, si elle est à l'écoute, je la salue. Mon parcours découle de son initiative. Alors, j'ai été approchée pour faire des consultations juridiques auprès des membres du Centre Femmes des Moulins. Alors, mon parcours commence comme ça auprès des organismes communautaires. Par la suite, j'ai siégé sur le conseil d'administration du Centre Femmes. Et de fil en aiguille, je me suis impliquée auprès de chez Regard en Elle, donc la maison d'hébergement qui est dans la Nadière Sud, pour faire des consultations juridiques aussi auprès des femmes, aussi donner de la formation aux intervenantes à l'époque. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée chez Regroupel à faire la même chose, donc à faire des consultations juridiques pour les femmes et faire de la formation aussi pour les intervenantes et préparer des documents qui sont remis aux femmes lorsqu'elles sont admises en maison d'hébergement, pour comment on se prépare avec une rencontre avec un avocat.
Ouais, ça doit être quand même stressant là, comme thématique pour une femme qui, justement, est dans un processus.
Ben oui, puis il faut comprendre aussi que c'est un processus. On sait une séparation à la base, c'est pas évident, mais en plus, si on y ajoute des éléments de violence, on veut protéger les enfants, on veut s'assurer que tout se passe bien. Donc, j'étais là pour faire avec elle aussi des filets de sécurité pour que lorsque la partie, donc souvent l'homme, reçoit les procédures, ben que tout le monde soit en sécurité et que tout se déroule le mieux possible. Donc, ça, c'est mon parcours initial.
Fait que ça veut dire que, dans le fond, c'est à partir du droit que tu as découvert un organisme communautaire autonome.
Tout à fait.
Et là, c'est là où il y a une piqûre qui s'est passée, j'imagine.
Bien, ça s'est fait naturellement. Puis, on dirait que, de fil en aiguille, j'ai toujours resté impliquée là, auprès de ces femmes-là. Pour moi, c'était hyper important. J'ai eu un parcours, moi, où j'ai eu une vie, j'ai été choyée, j'ai été chanceuse. Donc, pour moi, de redonner était hyper important. Donc, ça fait partie de mes valeurs, puis de m'impliquer aussi, parce que c'était du temps bénévole. Hein, quand j'allais faire des consultations juridiques, c'était pas, je sortais pas mon carnet faisant des factures, là, pas du tout. Donc, tout ça était gratuit, était fait de... Pour moi, là, ça me faisait plaisir et c'était naturel.
Donc, on sent les valeurs qui te portaient finalement à atterrir au Centre Femmes à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Et par la suite, quelques années plus tard, évidemment, parce qu'on parle de ça il y a une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, je me retrouve à être la directrice de chez Regroupel, maison d'hébergement, comme tu as mentionné. Et je pense que je ne serais pas la directrice aujourd'hui que je suis si je n'avais pas eu ce parcours-là auprès du Centre Femmes, auprès Regard en Elle et Regroupel. Il faut dire que j'ai connu Regroupel à l'époque où c'était uniquement des services externes, donc ce n'était même pas une maison.
Ouais, c'est ça, parce qu'il faut dire, dans l'histoire de Regroupel, pendant longtemps, la maison a été un rêve, un projet à atteindre qui a finalement pris forme, mais après quand même plusieurs années.
Oui, oui, tout à fait. La maison d'hébergement est encore tout jeune. On est rendu à 17 ans d'existence, mais j'ai participé, dans le fond, j'étais présente lors de la création, lors de l'achat de la maison, je participais de loin, mais quand même, j'avais un œil et j'étais là.
Puis qu'est-ce qui fait qu'on décide, à un moment donné, de dire, OK, j'applique pour le poste de directrice d'une maison d'hébergement?
Ben, pour les défis. Et comme je t'ai dit, je pense que le fait d'avoir été impliquée tout le long de ma vie professionnelle dans le milieu communautaire, moi, j'ai adoré le milieu communautaire dès le départ, les valeurs, le milieu de travail, la conciliation travail-famille. Mm-hmm. Tout ça, je trouvais que c'était bien véhiculé, c'était un milieu qui était, un environnement qui était sain, même si la problématique, on s'entend, là, il n'y a rien de positif dans ce qu'on
dit
tous les jours. Mais quand même, donc c'est ce qui m'a amené à appliquer sur le poste.
Oh wow, c'est donc bien cool. Puis, qu'est-ce qui fait que, au niveau, justement, on parle de la situation des femmes, de la violence, qu'est-ce qui fait que on a envie d'y aller au quotidien, malgré le côté un peu complexe de la situation?
Bien, je vais revirer un peu ta question. Je vais l'emmener
absolument.
Mais de voir les femmes dans l'état où elles arrivent, hein, souvent on les ramasse un peu en mille miettes, là, c'est au sens figuré, et de les voir cheminer, de les voir reprendre du pouvoir sur leur vie, bien ça, c'est ce qui me nourrit tous les jours. Donc, c'est vraiment de voir les réussites, je vais appeler ça, les petites réussites quotidiennes de ces femmes-là. On les voit arriver dans un état et souvent, la majorité du temps, elles repartent. Elles sont lumineuses, elles ont des projets, elles ont des nouveaux défis, mais des défis positifs. Donc, ça pour moi, là, c'est vraiment important.
C'est le fun parce que j'aime beaucoup faire des liens avec l'action communautaire autonome. Puis je pense que ce que tu viens de décrire là, par ton parcours à toi, de voir les femmes qui vivent ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la transformation sociale. Par le fait de l'intervention, par le fait d'avoir un milieu sécuritaire, ben cette reprise de pouvoir-là vient vraiment changer leur vie. Et là, j'imagine que les femmes qui passent à la maison d'hébergement, il doit en avoir certaines qui gardent un contact, qui s'impliquent après ça aussi à nouveau. Il doit avoir un cheminement de ce genre-là.
Ben tout à fait. Tu vois, c'est tout à fait à propos ce que tu me poses comme question. Samedi dernier, c'était notre Noël avec toutes les femmes qui ont passé dans nos services dans la dernière année. Donc, c'est bien. C'est fantastique, c'est magique, donc de voir où elles sont rendues parfois 6 mois après, voir les enfants grandir aussi, de voir le changement chez les enfants. Mais oui, on se rassemble comme ça une fois par année, donc c'est fantastique.
Ah, génial. Stéphanie, c'est vraiment un plaisir que tu sois avec nous dans l'émission. Puis là, j'en profite pour dire, en plus de ce que tu fais comme directrice de la maison d'hébergement, tu es aussi sur le conseil d'administration de la Troquel.
Oui.
Et le CA de la Troquel, hein, c'est un regroupement de 200 organismes. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de venir siéger au conseil d'administration, puis là d'être dans vraiment le côté large de l'ACA?
Bien, d'en apprendre encore plus. Je ne sais pas si tu te rappelles, Hugo, quand on s'est rencontrés la première fois, on a fait un appel donc pour que je sois sur le conseil d'administration. Et là, tu me dis, il y a plein d'acronymes, Donc, j'ai connu des nouveaux regroupements, des nouveaux organismes. Donc, puis c'est d'être, parce qu'on est quand même 13, je pense,
oui,
sur le conseil d'administration. Donc, c'est de connaître aussi d'autres organismes que je connais pas ou que je n'ai pas la chance de côtoyer. Donc, puis en même temps, c'est de contribuer et de participer là, au développement de la Troquel et de t'appuyer dans tes démarches.
Donc, aussi les défis. De ce que je comprends, les défis t'animent beaucoup.
Oui.
On en a autant à la Troquel qu'il peut y en avoir chez Regroupel. Puis là, ben, tu relèves le défi d'être avec moi ce soir.
Oui.
C'est vraiment incroyable. Merci Stéphanie. Et on s'en va en musique. Une chanson qui me fait particulièrement vibrer, c'est la chanteuse Louane, une chanteuse française. Et vous allez voir dans la chanson, elle parle à sa fille. Donc, c'est le moment de la chanson.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi. C'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends. Que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal.
On est de retour en studio avec Stéphanie. Aujourd'hui, on va prendre aussi le temps pendant l'émission, Stéphanie, d'expliquer les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est commencé depuis hier, le 25 novembre, et ça se rend jusqu'au 6 décembre, moment où on commémore la situation qui s'est vécue à Polytechnique. Est-ce que tu veux nous dire un peu le contexte dans lequel ces journées-là sont apparues?
Oui, bien tout à fait. Je vais te faire un petit bout d'histoire. Alors, le 17 décembre 1999, les Nations Unies ont pris la décision que le 25 novembre deviendrait la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, si on se reporte, si on recule 24 heures en arrière, donc hier, le 25 novembre, partout sur la planète, c'est la journée internationale pour éliminer la violence à l'égard des femmes. Il s'est passé la même chose, donc, mais nationalement, donc au Québec, suite au drame de la Polytechnique, donc suite au décès, j'irais même jusqu'au meurtre de 14 jeunes femmes, étudiantes en génie. Donc, le 6 décembre, c'est la journée pour terminer ces 12 jours de réflexion, de sensibilisation sur toutes les violences faites aux femmes.
Et on le sait qu'encore aujourd'hui, tu sais, je l'amène, il y a la violence faite aux femmes, mais il y a la question des droits des femmes aussi, qui est, je dirais, en péril actuellement, mondialement, chez nos voisins du Sud, mais ces vagues-là viennent jusque vers nous, et j'imagine que ça impacte aussi des moments où on décide de prendre action pour, justement, mettre de en lumière la question de la violence faite aux femmes. Ce ressac-là, il doit se ressentir pour vous?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est questionnable. Hein, tout ce qu'on entend, effectivement, chez nos voisins du Sud, mais qu'il y a des répercussions. Hein. On a entendu des politiciens ici au Canada.
Oui, c'est ça.
Clairement que, hein, les droits des femmes, on était pour revoir ça. On pense notamment à l'avortement, du droit à l'avortement.
Ouais, puis justement dans le projet de loi 1, on voit que c'est inscrit dans le projet de loi alors que tout le monde dit ce n'est pas une bonne idée. Fait qu'encore là, c'est comme si on se mêle, je vais dire, d'un sujet qui nous regarde pas dans l'espace politique, qui finalement peut peut-être mettre plus de bâtons dans les roues que de poursuivre le progrès qu'on avait installé.
Tout à fait. Puis, tu sais, tu parles de violence à l'égard des femmes, du droit des femmes, mais le fait de tuer une femme, le fait de faire un voie de fait sur une femme, c'est d'atteindre ses droits.
Hein? J'ai droit, complètement.
J'ai droit à la vie, j'ai droit de vivre en sécurité, j'ai droit de vivre en paix. Alors, c'est d'atteindre mes droits en tant que femme que quelqu'un vienne m'agresser.
Tout à fait. Et ce que je trouve, il y a comme une sensibilité à développer, même dans le discours, je pense, dans les médias. Entre autres, puis depuis la pandémie, probablement que ça a pris encore plus de place quand on parlait des féminicides. J'avais l'impression que des fois, c'était amené comme un fait divers, alors que c'est quelque chose de hyper important. Puis le traitement, pour moi, reste primordial. Et j'ai l'impression qu'on a même encore de la sensibilisation à faire sur cette situation-là. Est-ce que tu veux nous expliquer, justement, le concept de féminicide? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, la définition d'un féminicide, là, je vais te résumer ça en des mots très simples, c'est l'assassinat d'une femme, d'une adolescente ou d'une enfant en raison de son genre. Donc, à partir du moment où je suis une femme, je suis une jeune fille et qu'on atteint ma vie, c'est considéré comme un féminicide.
OK. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, en 2025, qu'on doit encore faire de la sensibilisation, on doit encore tenir les 2 jours d'action, justement pour amener cette préoccupation-là, cette sensibilisation-là. Pourquoi ça donne pas l'impression qu'on avance?
Tu sais, Hugo, moi je considère qu'on devrait pas avoir ces 2 jours-là.
Tout à fait.
Ça devrait pas exister.
Absolument.
Pourquoi on doit le faire? Parce que faire de la sensibilisation, je pense que plus on va marteler, plus on va expliquer c'est quoi aussi. Parce que d'expliquer clairement qu'est-ce qu'un féminicide, qu'est-ce qu'un filicide, c'est quoi la violence faite aux femmes, je pense qu'on va faire des progrès. Mais évidemment que je pense qu'on a beaucoup de mentalité à changer ou de chemin à faire pour y arriver.
Et ça, ben, ça va aussi avec l'éducation. Et j'ai l'impression, pour en parler avec des amis qui sont enseignantes et enseignants au secondaire, on a de moins en moins l'aspect social dans les cours. Que comme nous, je pense que toi puis moi, on a à peu près la même âge. Rappelle-toi des cours de FPS,
oui,
où c'est un sujet qu'on abordait. Puis là, ben, c'est plus ou moins amené. Il y a les rapports égalitaires qui sont encore un peu présents. Mais je pense qu'il y a tout un aspect aussi de revenir à l'éducation sur cette notion-là de la violence faite aux femmes, la violence aussi dans notre société. Je pense que c'est important de le ramener. Et j'espère que les 2 jours peuvent permettre justement de ramener ça au goût du jour puis de se dire c'est important parce que en l'enlevant, on voit les répercussions. Est-ce qu'il y a des données qui sont encourageantes? Est-ce qu'on avance?
Ben écoute, un de plus, c'est un de trop.
Tout à fait.
Féminicide. J'ai les données de 2024, donc pour l'année 2024 au complet, donc de janvier au 31 décembre, il y a eu 25 féminicides. À ce jour, donc en date du 26 novembre 2025, nous sommes rendus à 16 féminicides et un filicide. Hein, on se rappelle la jeune fille qui a été noyée à New York par son père.
Ouais.
Donc c'est un filicide, c'est une agression envers une jeune fille de sexe féminin, donc c'est considéré dans les statistiques. Je reviens un peu sur ce que tu disais, hein, de ramener ça à l'école ou de devoir dans l'éducation. Moi, je pense que ça fait partie du rôle aussi des parents.
Ah oui, tout à fait.
D'avoir des discussions, soit sur l'heure du souper ou, tu sais, quand on est en famille. Et ces 12 jours-là peuvent être juste un prétexte pour ouvrir la discussion.
Hey, tellement.
Et autant envers nos jeunes garçons qu'envers les jeunes filles aussi. Donc, d'avoir ces discussions-là de « mais qu'est-ce que la violence fait aux femmes? » Et comment on agit quand on voit nos amis aussi qui agissent mal avec leur blonde, avec... L'adolescence, c'est déjà pas facile, hein, on se le cachera pas. Mais en plus d'avoir une discussion sur comment on agit pour avoir des rapports égalitaires, justement, entre conjoints, entre amoureux.
Ben oui, tout à fait. Et c'est parce que ça touche, dans le fond, toutes les sphères de nos vies, cette situation-là de rapport égalitaire. Stéphanie, on s'en va en musique, on continue la discussion après le prochain bloc.
Je sais que tu travailles toujours fort avec ce qui t'a été donné. Mes yeux sont accoutumés au noir, c'est nourrir la bouche qui te mord, celle qui t'empêche de parler. Moi, j'essaye de la vie, je sais que c'était déjà compliqué. Mais moi, maman, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu comme ça qu'on guérit, qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Les Rouges vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Les grands classiques de Noël et du temps des fêtes seront au rendez-vous tous les jours de la semaine et du week-end. Faites de CFNJ votre radio au bureau, dans votre commerce, en auto, à la maison et au chalet. Vivez pleinement ce temps de réjouissance au son de votre radio dans la Naudière. CFNJ 99.1-88.9, la vraie radio du temps des fêtes.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours.
L'indice du jour, rêve.
CFNJ 99.1 88.9.
Au 99.1 88.9 CFNJ, vous écoutez C'est ça la CA avec Hugo Valiquette.
CFNJ 99.1 88.9.
Nous sommes de retour avec Canel du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Bonjour Canel.
Bonjour Hugo, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui.
Ah, c'est un plaisir vraiment partagé et je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent que on va se parler à peu près à tous les mois pour faire un petit tour d'horizon des enjeux, des situations qui touchent l'Action communautaire autonome pour dire aux personnes qui nous écoutent, en fait, le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, c'est l'interlocuteur des organismes envers le gouvernement. Donc, c'est vraiment le représentant ultime de tous les organismes communautaires en action communautaire autonome. Donc, on va vraiment avoir la chance, Canel, de faire des beaux tours sur justement ces sujets-là. Puis on se le disait avant d'être en onde, ce qu'on veut aussi, c'est permettre aux personnes qui sont pas dans le mouvement de les comprendre, ces situations-là, les enjeux qu'on va parler, les éléments. Fait qu'écoute, c'est une aventure qu'on part tous les deux ensemble aujourd'hui.
Exactement. C'est ça. Ben écoute, j'ai vraiment hâte. En plus, je vais pas te mentir, on a beaucoup de pain sur la planche en cette fin d'année pour le mouvement de l'Action communautaire autonome. Et il y a plusieurs organismes qui sont en train de se mobiliser et de travailler très dur pour que deux menaces dont on va parler tout à l'heure envers l'Action communautaire autonome ne passent pas, tout simplement. Voilà.
Absolument. Lançons-nous dans le vif du sujet. Premier gros dossier, c'est le projet de loi 1 qui vise à doter le Québec d'une constitution. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet de loi-là? Qu'est-ce qui est l'enjeu là envers justement les organismes communautaires autonomes?
Ben, le projet de loi 1, c'est sûr que c'est un projet de loi complexe parce que c'est un projet constitutionnel, comme tu l'as dit, c'est la loi des lois. Donc que le Québec décide de se doter d'une loi des lois, c'est pas une action sans conséquence, mais aussi en fait dans la façon dans le processus qu'il a été mené, il y a beaucoup de problématiques, notamment parce que un projet de constitution, c'est vraiment censé faire un consensus en fait dans la population et dans la société et être écrit avec la société civile, avec la population justement pour qu'il fasse sens. Et c'est pas du tout ce que le PL1 fait, c'est pas du tout comme ça qu'il a été réfléchi. Et certes, c'est vraiment une menace pour l'action communautaire autonome, mais plus largement en fait pour la démocratie et pour les droits individuels. Mais si on parle spécifiquement des organismes d'action communautaire autonome, même si tous les éléments de ce projet de loi nous inquiètent, et c'est pour ça que notre décision, elle a été de refuser l'intégralité de ce projet de loi, et nous, nos alliés, donc d'autres groupes d'action communautaire autonome, vraiment, on le dit, rien, que ce soit dans le processus ou dans le contenu de cette loi, n'est légitime et n'est bénéfique pour le Québec.
Justement. Mais ouais. Par rapport à ça, Canel, je pense que c'est super important, avant même de dire les menaces à l'action communautaire autonome, c'est vraiment le processus démocratique qu'on remet en question.
Tout à fait.
Ça, ben, je pense que c'est l'ADN même de l'action communautaire autonome.
Exactement, c'est
dans
ça.
Dans nos organismes, on vit la démocratie de façon assez directe. Et tu dis bien, je trouve, une constitution, c'est important. Justement, ben, on ne l'a jamais fait encore au Québec, tellement que c'est un point important à amener dans une société. Donc, je trouve ça intéressant de la manière que tu l'amènes. Puis, ça explique aussi cette posture-là de dire, ben non, pas dans cette façon
de faire. Cette façon de faire-là.
Exact. Les citoyennes et les citoyens auraient dû avoir voix au chapitre.
Dans cette Exactement. Procédure. Puis, actuellement, en fait, il y a un début de consultation, mais elles sont largement superficielles. Et il y a un traitement finalement de la société civile qui est vraiment questionnable. Et c'est pour ça que le processus est fondamentalement antidémocratique. Puis pour rappel, le gouvernement de la CAQ n'a pas de mandat électoral clair pour faire une telle action politique. Donc ça pose vraiment des questions de légitimité, de démocratie. Puis on n'est pas les seuls organismes de la société civile à dénoncer le processus et le contenu. Plus spécifiquement pour les organismes d'action communautaire autonome, ce qui nous inquiète, c'est vraiment une part de ce projet de loi où il est mentionné que les organismes recevant du financement du gouvernement ne peuvent pas attaquer le gouvernement devant les tribunaux pour non-respect, notamment par exemple des droits individuels. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça bâillonne les voies de la société civile et ça entrave la possibilité de la société civile de jouer son rôle de contre-pouvoir. Et finalement, nous, en action communautaire autonome, c'est souvent ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on revendique notre autonomie. C'est parce qu'on a besoin de cette autonomie politique pour à la fois recevoir du financement du gouvernement, mais aussi avoir une distance critique avec ce dernier. Et cette distance critique, elle nous est reconnue par le gouvernement depuis 2001, depuis la politique. Donc c'est vraiment un recul finalement. Puis aujourd'hui, dans le texte, les organismes d'action communautaire autonome ne sont pas mentionnés dans la liste des organismes concernés par cette mesure, mais il est aussi indiqué clairement que n'importe quel organisme pourrait être ajouté par voie de règlement sans consultation publique. Donc ça veut dire que oui, peut-être que maintenant, ce n'est pas clairement établi que les organismes d'action communautaire autonome sont inscrits sur cette liste, mais demain, le gouvernement pourrait très bien décider de nous intégrer et nous n'aurions pas ni d'outils ni de leviers pour empêcher cette intégration. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très dangereux pour la démocratie, puis pour tout simplement la défense des droits notamment.
Ce que j'allais dire, la défense des droits, elle est reconnue, exactement. C'est dans nos pratiques, c'est dans nos approches. Et là, ben, c'est comme si on nous empêche de jouer notre rôle.
Exactement, c'est ça. En fait, c'est une contrainte supplémentaire et ça nous permet pas d'avoir la latitude, en fait, de, comme tu le disais, mettre en place nos pratiques, puis de porter la voix de populations qui sont souvent marginalisées. Parce que là, on n'en a pas parlé des autres éléments du projet de loi, hein, mais c'est quand même un projet de loi qui, je le rappelle, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent le fait que par une volonté d'intégrer des valeurs québécoises floues que personne n'a définies et une conception de la laïcité qui, depuis son entrée en vigueur, a été largement critiquée, porte un risque énorme à la discrimination systémique et à l'accroissement de la discrimination systémique. Donc, on prend ça d'un côté et on rajoute le fait que les organismes de la société civile, notamment les organismes d'ACA, auraient un mal fou finalement à avoir cette posture critique et à défendre leur point devant les tribunaux, ben on arrive à un cocktail très très grave pour la démocratie et vraiment un risque encore plus accru d'avoir de la discrimination systémique sans contre-pouvoir pour protéger cette part de la population, tout simplement.
Je pense que ça dépeint bien les enjeux qu'on a avec le projet de loi 1, mais là, c'est pas tout, là. Parce qu'il y a aussi le projet de loi 7 qui est encore là, entré, je dirais, de plein fouet dans notre réalité d'organisme communautaire autonome.
Exactement. Et encore une fois, on s'attaque à la part de défense des droits de l'action communautaire autonome. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut savoir que Il y a une grande majorité des groupes d'action communautaire autonomes qui font de la défense des droits. Mais il y a une catégorie dans l'action communautaire autonome dont la mission première est la défense des droits. Et on s'attaque spécifiquement à eux. Donc, faut savoir, le projet de loi 7, c'est un gros projet de loi administratif. Donc, c'est un projet de loi qu'on va nommer omnibus parce qu'il va modifier plein de choses. Mais ce qui nous intéresse pour l'action communautaire autonome, c'est vraiment la fusion du FACA et du FKIS. Donc, c'est quoi le FACA, c'est le fonds d'aide à l'action communautaire autonome. Et en fait, ce fonds, il est très important parce qu'il permet de financer les groupes en défense des droits à la mission. Et pourquoi ce fonds, il est important? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la défense des droits, ils ont vraiment un rôle de protéger la population contre des dérives de pouvoir ou des dérives au niveau du droit. Et donc, ils ont besoin de cette autonomie, d'une distance critique, sans craindre en fait qu'on leur retire leur financement. Et c'était vraiment à ça que servait le FACA, c'était reconnu depuis des années. Et donc, perdre le FACA, c'est perdre un acquis historique pour l'action communautaire autonome. Donc, ce serait vraiment un recul. Par cette fusion avec le FKIS, FKIS qui est le Fonds québécois d'initiative sociale, qui serait fusionné dans un espèce de gros fonds très flou, ouais, où on mélangerait communautaire, même, comment ça s'appelle
La lutte à la pauvreté,
exactement,
le
social. Exactement. Donc, il y aurait
là,
plein de finalités sociales. Donc en fait, finalement, la défense des droits serait complètement perdue à travers de multiples finalités sociales qui sont importantes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux fonds, ils ont des logiques de fonctionnement complètement différentes. Le FACA, c'est du financement à la mission, qui est profondément indépendant du gouvernement et reconnu. Alors que le FKIS, dont on risque de reprendre certains fonctionnements, c'est une logique de projet ponctuel. Donc, c'est pas quelque chose forcément sur le long terme.
Canel, devant ces deux projets de loi-là, ces situations-là, mais là, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être faites en ce moment. Il y a des groupes, notamment le RQAK, qui a rédigé deux mémoires à la fois pour le PL1 et pour le PL7. Vous pouvez les consulter sur notre site internet. Pour mieux comprendre le PL1 avec la Ligue des droits et libertés, on a fait un webinaire qui est disponible sur le site de la Ligue, mais aussi sur notre Facebook. Donc, allez voir pour vous informer, parce que c'est déjà une étape de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Mais aussi, un important moment de mobilisation, et j'invite toutes les personnes intéressées à nous rejoindre le 29 décembre, et donc il y aura
Non, 29 novembre.
Novembre. Tu vois, je t'avais dit que je me trompais souvent sur les dates. Donc, à chaque fois que j'interviens ici, rappelez-vous, écoutez plutôt les dates d'Hugo que les miennes. Le 29 novembre. Donc, le 29 novembre à Montréal, sur la place du Canada, il y a une grande manifestation intersyndicale, mais aussi avec beaucoup d'acteurs de la société civile, dont le communautaire qui aura un contingent.
Ça devrait préoccuper
tout le monde. Exactement. Ça touche les espaces démocratiques auxquels vous avez droit. Tu sais, on devrait tous s'inquiéter, en fait, de ce qui est en train de se passer. Puis, je crois que quand des acteurs tels que le Barreau du Québec se prononcent sur ces questions pour dénoncer des dérives autoritaires, il faut le prendre au sérieux.
Voilà. Canel, on a brisé la glace. Notre premier moment ensemble vient de se vivre. Donc, c'est des invitations très importantes. Et on se retrouve dans un mois pour continuer cette belle collaboration.
Merci beaucoup à toi, Hugo. J'ai hâte de
CFNJ.
Thank you. saoule avec le bruit. Et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
On est de retour en studio pour continuer à parler des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Stéphanie, ben ça le dit, hein, ces 12 jours d'action. Quelles sont les actions qui se passent dans la région de la Lanaudière?
Alors, on se parle d'aujourd'hui, 26 novembre. Donc, aujourd'hui, c'était la journée de concertation nationale en prévention de la violence entre partenaires intimes et c'est chapeauté par la Sûreté du Québec, donc à la grandeur du Québec. Mais tous les corps policiers de Sûreté municipale aussi suivent. Donc, okay. Sûrement aujourd'hui, vous avez pu voir des barrages routiers. Donc, ce n'était pas des barrages là, pour
l'alcool au volant,
comme on est habitué. Mais c'est vraiment des barrages routiers sur des axes important, les quadrilatères là, de chacune des villes où on remet des dépliants sur c'est quoi la violence conjugale, c'est quoi la violence entre partenaires intimes aussi. Et des intervenants des maisons d'hébergement sont présents avec les policiers du CALAX aussi. Souvent, il y a des procureurs aussi de la Couronne qui participent à ces barrages routiers. Donc, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation auprès de la population, pour expliquer, mais qu'est-ce que c'est exactement?
Et là, j'aime ça parce que ça aussi, c'est une belle démonstration d'un des critères de l'action communautaire autonome, qui est celui de l'enracinement dans la communauté, de voir ce maillage-là entre les corps policiers, des organismes communautaires autonomes. Il y a quelque chose, je trouve, ça s'est bâti au fil du temps. Moi, je me souviens que, il y a quelques années, la relation entre les organismes pour femmes et la police, c'était quand même pas si simple. Mais là, de voir ce type d'action-là aujourd'hui, ça, en tout cas, pour moi, je vois un bel espoir dans la construction de ces liens-là, puis de le fait de se soutenir comme communauté.
Bien, effectivement. Et les policiers sont maintenant formés pour agir lors des situations en violence entre partenaires intimes ou violence conjugale. Ils ont aussi maintenant des intervenants psychosociaux avec eux. Donc, ça favorise beaucoup le partenariat. Et si je peux me permettre, dans la Naudière-Sud, on a des policiers hors pair qui font un travail magnifique auprès des victimes. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, là, c'est de plus en plus facile là, d'avoir un partenariat.
Et là, les 12 jours d'action ont amené aussi de parler de la situation, en particulier dans les maisons d'hébergement. Et là, on le disait en dehors des ondes, une statistique est quand même assez importante. Quand les femmes appellent dans les maisons parce qu'ils ont des situations, ils vivent, ils ont besoin d'aide, mais là, tu me disais, la réponse n'est pas si facile que ça.
Malheureusement, nos maisons sont toutes petites, même si on a des grandes maisons avec beaucoup de chambres, puis je pourrais t'en parler, mais une femme sur deux, en moyenne, se voit refuser son admission par faute de place. Donc, c'est pas parce qu'on veut pas les accueillir, c'est pas parce qu'elles ne cadrent pas dans nos critères d'admission, mais c'est vraiment parce qu'il y a un manque de place. Souvent, nos maisons sont pleines à plus que 100%. Donc, on essaie de créer des places par l'intérieur, mais c'est une statistique qui est bonne pour la grandeur du Québec. Il manque de ressources. Juste pour compléter, en 2024, dans le fond, SOS Violence Conjugale a reçu plus de 60 000 demandes d'aide.
Oh, c'est énorme.
C'est énorme. Tu sais, Hugo, environ 40 % des Québécoises de 18 ans et plus qui ont été en couple ont vécu au moins un acte de violence entre partenaires intimes, ce qui est l'équivalent au Québec de 1,33 million de femmes au Québec qui ont été victimes.
Quand même, c'est des données qui sont frappantes, puis je pense que c'est important de continuer à mettre ça en lumière, cette situation-là de la violence faite aux femmes. Rapidement, tu viens de regrouper, là, on en a parlé, puis tu nous parlais de la mission, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme actuellement?
Oui, bien présentement, je peux te parler un peu de nos services. Mm-hmm. Alors, on est une maison d'hébergement, effectivement. On a 16 chambres, on peut accueillir jusqu'à 21 personnes. Mais présentement, on est plein, on a 26, 27 personnes, on est rempli d'enfants, donc ça bouge beaucoup dans
ça
la maison.
Ça doit être un milieu vivant.
C'est très vivant, je te le confirme. Mais aussi, on a des services de services externes. Donc, une femme qui n'a pas besoin d'être hébergée, mais qui a besoin de notre aide, qui a besoin de parler. Donc, on offre des services externes aux femmes, mais aussi jeunesse.
OK.
Faut pas oublier les enfants dans ces situations.
Ben oui, absolument. Puis ça, ben je pense que c'est la particularité de s'être adapté aussi à la réalité. Puis ça, c'est une force du mouvement communautaire autonome. On retourne en musique avant la conclusion de notre émission.
Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse tremper ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit t'es perdue, ton souffle qui s'étouffait. Des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes auras sans trouble, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la peur est de noir, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, ou la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie de noir, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient,
Stéphanie, je pense qu'on aurait pu encore se parler une autre émission complète, tellement qu'il y a d'informations à donner. Qu'est-ce que tu as envie de nous laisser comme message de conclusion?
Bien, en conclusion, là, je dirais qu'on a une ligne d'écoute 24/7, donc 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Mais que ce soit pour vous, pour que ce soit pour un membre de votre famille, une amie, de confirmer est-ce que c'est de la violence, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Donc, n'hésitez pas à appeler dans les maisons d'hébergement. On a toute une ligne d'écoute. Et sinon, il y a toujours SOS Violence Conjugale qui est disponible 24/7 aussi pour répondre aux questions. Puis, à la limite, ils nous réfèrent les appels, donc pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner.
Merci de la générosité des partages, Stéphanie. Je pense que c'est une émission qui va rester dans les très importantes de notre série de C'est ça la cas. Et à la maison, je vous rappelle qu'on est en plein dans notre campagne citoyenne. C'est ça la cas. Vous l'avez sans doute entendu cet après-midi dans ma discussion avec Nicolas, où on disait qu'on part la campagne citoyenne et qu'on vise peut-être à avoir, hein, nous là, on est ambitieux, là, 22 222 personnes qui nous appuient. Puis tantôt, Nicolas, quand il a appris qu'on était 8 pour l'instant, et non pas 8000, mais bien 8 personnes, ça veut dire qu'on a besoin de vous. C'est facile, troquel.org/mobilisation. Vous choisissez la section « Je suis une citoyenne, je suis un citoyen » et vous pouvez embarquer avec nous dans la campagne. Déjà d'avoir votre nom qui dit « Nous, on trouve ça important, l'Action communautaire autonome », c'est déjà important d'en parler sur vos médias sociaux. Et si vous êtes en mesure d'investir un 5$, 10$, 15$, ben tous ces sous-là vont simplement nous donner moyen d'atteindre nos revendications. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est ça la cas. Bonne semaine tout le monde!